à bord.
Les passagers de Air Show sont priés de monter à bord. Air Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Muntu, studio 2, micro 3, en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. La question de cette semaine dans cette émission, solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. On va continuer avec ce sujet-là aujourd'hui, pourquoi pas avec des invités dans cette émission aujourd'hui, qui dit mercredi dans Arab Show, dit aussi country music. Et bien sûr qu'il y aura aussi l'anglais, l'actualité, la blague du jour, on conseille avec Lionel et Jean-Louis Mafema. On décolle d'abord et nous attendons bien sûr vos coups de fil, vos réactions sur notre page Facebook VOA Afrique ou alors sur ma page Roger Muntu, journaliste. N'oubliez surtout pas que vous aussi m'envoyez un message sur WhatsApp au plus 1-703-350-3731. C'est au plus 1-703-350-3731.
Turn it on again, staring at the blades of the fan as it spins around. Counting never cracked, the clock is wide awake, talking to myself, anything to make a sound. I told you I wouldn't call, I told you I wouldn't care, the baby climbing.
Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de Voice of America en direct de Washington, D.C. Ici, c'est votre gars Roger Moutou. C'est comme d'habitude, bien sûr, que vous nous captez dans vos radios, chez vous, dans vos pays, hein, vos villes, vos villages. Mais aussi, vous pouvez télécharger, comme on vous a dit, on vous a demandé la semaine dernière aussi de télécharger l'application Aram Show VOA pour nous capter en live. Hein, Aram Show VOA, vous pouvez downloader. Télécharger cette application pour capter les émissions ratées ou des émissions en direct en live. Je rappelle que notre question de cette semaine, solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. Et vous avez été nombreux à répondre à cette question sur les réseaux sociaux. On va lire aussi vos commentaires. Pensez-vous encore une fois que les Africains sont prêts à prendre en charge leur propre sécurité face au terrorisme et aux conflits ethniques ou à leurs maladies? Qu'en sais-je? Mais écoutez les amis, passons d'abord à l'anglais. L'anglais, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Si en ce moment, c'est même le moment où nos amis à l'école protestante de Ouaga préfèrent pour apprendre un mot ou une expression en anglais. English time is now. Et bien sûr, c'est avec Michel Joseph. Hello, Michel.
Hello, Roger. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, income. I-N-C-O-M-E. I-N-C-O-M-E. Un revenu, un salaire. She had a huge income. Working as a doctor, elle gagnait un énorme salaire en tant que médecin. Despite having few skills, he earned a decent income. Malgré des compétences limitées, il gagnait bien sa vie. Low income housing is hard to come by. Les habitations pour revenus modérés sont difficiles à trouver. As an engineer, she was in a high income bracket. En tant qu'ingénieur, elle était dans une catégorie de revenus élevés. With that income, you're well off. Avec ce salaire, tu peux bien vivre. With this income, I'm struggling. Avec ce revenu, j'éprouve des difficultés. How are you going to manage on such little income? Comment vas-tu t'y prendre avec un si petit salaire? Back to you, Roger.
Back to us. Merci beaucoup, Michel Joseph. L'anglais, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. La solution africaine aux problèmes sécuritaires africains, c'est notre sujet de cette semaine. Nous avons notre invitée de ce soir, Madame Niagali Bagayogo, qui nous rejoint déjà de... je crois qu'il est au Séoul, hein, c'est ça. Madame Bagayogo, docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Je ne sais pas si je devais dire, je ne sais pas quelle heure il fait exactement, mais il doit faire, je dois dire bonjour.
Bonjour.
Docteur Niagali Bagayoko, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, hein, option, vous avez fait l'option internationale, vous êtes spécialisé dans les études stratégiques, hein, vous travaillez sur les politiques de sécurité françaises et américaines, sur les conflits africains et sur le concept même européen de gestion civile et de crise. Merci d'avoir répondu aujourd'hui à cette invitation.
Merci à vous.
Ah, super. Alors on commence, docteur, directement la question de cette semaine. Cette question que nos auditeurs nous posent chaque semaine, cette semaine, ils ont choisi la question de savoir quelles sont les solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. Je crois que c'est un peu vaste, mais peut-être que vous pouvez nous conduire, nous expliquer un peu en général d'abord, c'est quoi quand on parle de sécurité pour nationale ou internationale?
Alors, cette question est particulièrement pertinente dans la mesure où il y a eu une évolution de la conception de la sécurité depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la fin de la guerre froide. Pendant très longtemps, on a tendu à considérer que la sécurité renvoyait à la sécurité des États en tant que telle, et donc à la protection de leurs frontières de manière militaire et à l'affirmation, y compris sur la scène internationale, de leur souveraineté. On a connu une évolution avec notamment l'apparition de ce qu'on a appelé le concept de sécurité humaine,
right,
qui a davantage mis l'accent sur les communautés, les individus, les groupes. Et donc aujourd'hui, on a une conception de la sécurité qui est beaucoup plus large et qui considère que la sécurité renvoie bien entendu à la sécurité de l'État, mais aussi et peut-être avant tout à celle des populations.
Voilà, merci beaucoup, hein, docteur. Je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Louis Mafema. Jean-Louis, on avait beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous avons docteur Bagayoko qui est notre invité de ce soir. Et je sais que tu avais aussi beaucoup de questions hier à poser, et même des questions qu'on allait poser aujourd'hui. Est-ce que tu as une question ou un commentaire après ce que le docteur vient de dire? Le micro, ouais.
Quels sont les progrès qu'ont fait l'Afrique dans les 10 dernières années, parce que j'ai l'impression que ça décroît un peu plus, il y a beaucoup plus de conflits armés entre pays, ou bien et le terrorisme est en hausse aussi. Est-ce qu'ils font des progrès, ou bien c'est ce que nous voyons quand on regarde la télévision?
Alors moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a un grand nombre de progrès qui ont été accomplis depuis une vingtaine d'années. D'abord pour ce qui est des affrontements interétatiques, il n'y en a quasiment pas, hein, en tout cas d'affrontements interétatiques ouverts entre États. Ils ont tendu à largement décroître, notamment avec le rapprochement ou en tout cas l'abaissement des tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a une insécurité, une instabilité qui est de plus en plus de nature transnationale et transrégionale, et que donc les réponses à apporter ne se situent plus seulement au niveau des capacités des États eux-mêmes, ce qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, la nécessité de mettre sur pied des solutions concertées, et c'est ce qu'ont fait les États africains, notamment en mettant en place des instruments, à la fois dans le cadre de l'Union africaine, instrument qui n'existait pas à l'époque de l'OUA, qui mettait vraiment l'accent sur le principe de non-ingérence et de protection de la souveraineté, même si l'organisation était dotée d'un mécanisme de gestion des conflits, mais également dans le cadre des communautés économiques régionales comme la CDEAO notamment.
Docteur, merci. Commençons d'abord parce que nous savons qu'il y a des problèmes un peu partout en Afrique et dans presque chaque coin. Hein. Commençons d'abord avec les armées africaines sont au premier rang, par exemple, de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Est-ce que ces armées africaines sont préparées pour assumer ce rôle?
Alors ça aussi, hein, là vous êtes absolument au cœur de la problématique. Je voudrais juste préciser que, étant donné le type d'insécurité à laquelle on doit faire face aujourd'hui, les armées ne doivent pas être les seuls acteurs, puisqu'on a affaire à des menaces, comme je le disais, de type transnational, comme les trafics de drogue, d'êtres humains, de voitures, de cigarettes, etc., qui demandent aussi la mobilisation d'instruments policiers ou d'instruments en matière de renseignement. Mais il est vrai que les armées ont tendance à être celles qui sont le plus souvent mises en avant, y compris dans les médias, mais aussi dans les politiques mises en œuvre. Et il est vrai qu'on s'est heurté dans un certain nombre de conflits à un certain nombre de faiblesses que connaissent les différents appareils militaires sur le continent, qui sont en large partie dues au fait que ces armées africaines, après les indépendances, ont très souvent été utilisées comme des instruments aux mains des régimes, donc comme des instruments à l'appui de politiques, d'hommes politiques, et non pas comme des instruments voués à défendre aussi bien les institutions de l'État que les populations. Donc on s'est retrouvé face à une insécurité que des armées non entraînées, non équipées, ont été en mal de contenir.
Jean-Louis.
Oui, moi une autre question, c'est que dites-vous de la problématique congolaise? Parce que il y a beaucoup de rébellions en Afrique, mais j'ai l'impression qu'elles sont vraiment concentrées sur la région de l'Est de l'Afrique et surtout l'Afrique centrale en particulier. Il y a beaucoup de rébellions. Parce
le Rwanda,
Burundi, le Rwanda, le Soudan, le Cameroun aussi. Maintenant, ça bouge un peu partout. C'est des rébellions ou des sortes de petites sécessions, etc. Tout. Qu'est-ce que vous dites de ces problèmes-là?
Alors, je pense qu'il est important, effectivement, de ne pas considérer que l'ensemble du continent est à feu et à sang. Hein.
Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai,
notamment pour les non-spécialistes de l'Afrique. Donc moi, je pense qu'il est important de lutter contre cette idée, mais aussi de connaître effectivement la réalité des dynamiques conflictuelles actuellement à l'œuvre. Donc si on divise le continent en plusieurs zones, en tout cas l'Afrique subsaharienne, on peut dire que l'Afrique de l'Ouest connaît une certaine stabilité, si on la compare à ce qu'a été la situation dans les années 90 ou 2000, avec notamment les guerre dans la région de la rivière Mano, avec l'exception bien entendu de ce qui se produit au Sahel autour de la crise centrée sur le Mali, qui déborde sur le Niger, le Burkina Faso, voire au-delà. Ensuite, vous avez l'Afrique de l'Est, qui est essentiellement concernée par la problématique du terrorisme, avec les Chebabs, on en a encore eu un exemple au Kenya avec l'attentat de la semaine dernière. Vous avez l'Afrique australe, qui est à l'évidence la zone qui reste encore la plus stable du continent. Et puis, comme vous le disiez justement, vous avez cette Afrique centrale qui, depuis des décennies, est un facteur d'instabilité continentale. Mais attention à différencier les différents types de conflits que l'on trouve dans cette zone.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire que vous évoquez le Cameroun. Le Cameroun est confronté à une menace de type terroriste avec le groupe Boko Haram, menace qui concerne également le Nigeria, le Niger, le Tchad, qui est effectivement concentré autour de cette région du bassin du lac Tchad, qui n'a rien à voir avec le type de conflictualité que l'on trouve en RDC justement, ou encore en République centrafricaine, qui serait confronté à des rébellions plus de nature plus communautariste à l'intérieur du pays.
Ouais. Docteur, restez avec nous, nous allons prendre un petit break, nous revenons dans un instant. La musique country pour nos amis qui sont à Abidjan en train de nous capter en ce moment. On salue d'ailleurs en ce moment notre ami Akalé qui nous capte à Yopougon.
She likes it when I call in sick to work. Spend the whole day hanging with her. I might get fired, but that's all right. I'm doing what she likes. She likes it when I bring home fresh fajitas and mix up a pitcher of margaritas. Catch a kind of buzz that lasts all night. I'm doing what she likes. She likes hearing how good she looks in them blue jeans. Little kisses sweeter than sweet tea. Things to whisper in her ear. Oh my, I like doing what she likes. Like running my fingers through long hair, lighting watermelon candles upstairs, letting them burn and holding her all night. I like doing what she likes. She likes it when I get past second gear. She's gravel blind in the rear view mirror. Sometimes I'm pushing 95, doing what she likes. And she likes it when I find a road to start and pull off somewhere and park. Turn the radio on and turn off the lights. Keep doing what she likes. She likes hearing how good she looks in them blue jeans. Little kisses sweeter than sweet tea. Things are whispered in her ear. Oh my, I like doing what she likes. Like a
in them blue jeans. Little kisses, sweeter than sweet tea. Things to whisper in her ear, oh my.
Blake Shelton, c'est-il l'artiste. Et merci infiniment aux amis qui sont en train de nous capter à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Bamako et bien sûr à Conakry. Merci infiniment, vous êtes en train d'écouter Aramchou. Et Aramchou, si chaque jour entre 20h et 21h temps universel, l'actu, c'est maintenant. La prestation de serment du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, est confirmée pour jeudi, ont indiqué de sources dans l'entourage des deux camps, le candidat et le pouvoir. C'est la première passation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge le 30 juin 1960. Patrice Edouard Ngaïsona, patron de football centrafricain et ex-milicien arrêté la mi-décembre par les autorités françaises pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés, a été remis mercredi à la Cour pénale internationale. Le gouvernement du Zimbabwe a qualifié mercredi de sévère, hein, sans les démentir, les accusations des tortures systématiques qu'auraient perpétrées ses forces de sécurité lors de la répression brutale des émeutes contre la hausse de prix des carburants. On finit en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a promulgué une loi sur le financement des partis politiques. Elle interdit notamment l'acceptation des donations provenant de gouvernements étrangers et d'identités publiques, ainsi que celles pouvant être issues d'activités criminelles. C'est tout pour l'actu de ce soir. Vous êtes en train d'écouter Aram Show. On vous dit merci infiniment. N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos messages sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Vous pouvez aussi appeler pour participer à cette émission au +1 202 205 26 33. Et nous continuons avec notre sujet de la semaine que vous avez proposé, solutions africaines. Quelles sont ces solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains? Pensez-vous que les Africains sont prêts à prendre en charge leur propre sécurité face au terrorisme et aux conflits ethniques ou alors maladies, comme on est en train aussi d'en parler? Notre invité de ce soir, c'est le docteur Niagale Bagayoko. J'avais dit au début de cette émission, elle est docteur en sciences politiques, option relations internationales. Elle est spécialisée dans les études stratégiques. Elle travaille sur les politiques de sécurité françaises et américaines, sur les conflits africains et sur les concepts européens de gestion civile des crises. Elle est aussi responsable du programme, hein, ça j'avais oublié de mentionner, maintien et consolidation de la paix de l'OIF en 2013. Merci docteur Niagale qui se trouve en Corée en ce moment et il fait matin là-bas. On lui dit bonjour, on dit bonsoir, on dit après-midi. Ce monde est compliqué. Heureusement qu'elle nous a accordé ce temps. Alors docteur, on continue avec ce sujet. J'ai dans ce studio mes collègues qui sont ici avec moi. Il y a Kadiatou Traoré qui est du Mali, Georges Léonard Sagnon qui est de la Guinée et bien sûr Jean-Louis Mafema qui est du Congo. Donc c'est l'Afrique qui est représentée ici pour mettre le docteur Niagale à la barre aujourd'hui, ce soir.
Non, pas pour la mettre à la barre quand même, ça c'est quand même un peu trop fort.
Bonjour
docteur Bagayogo.
Bonjour.
Très heureuse de vous rencontrer sur notre plateau ici et de parler de la situation qui aujourd'hui est une situation ambiguë pour les pays du Sahel, le conflit qui sévit au Mali et dans tous les pays du Sahel le ressentent aujourd'hui. Est un problème assez important et assez ambigu pour les populations du Sahel. ce problème, d'ailleurs, que vous savez, a pris sa source pendant la guerre civile en Libye, en 2011. Les populations Touareg, qui sont aussi maliennes, nous partageons, le Mali et puis la Libye partagent les mêmes peuples, qui étaient là-bas depuis des années durant et que le président Kadhafi avait utilisé dans son armée, ont pris la route de retour en République du Mali avec de l'artillerie lourde, et ce qui a vraiment provoqué beaucoup de choses, de mauvaises choses. Ils sont venus en disant qu'ils réclament l'indépendance et puis après c'est parti sur le terrorisme. Et aujourd'hui, malgré l'organisation de ces 5 pays du Sahel pour faire face à ça, il faut reconnaître que les Africains ne sont pas à mesure de prendre leurs problèmes à main. Ça, c'est un constat personnel que j'ai eu à faire, parce que le Mali était tout seul et ils étaient obligés de se rabattre sur la France à un moment donné. Mmh. Pensez-vous que cette situation qui sévit actuellement et qui dure, qui perdure, parce que les populations sont vraiment pressés. Quand tu poses la question à un Malien maintenant, ils vont te dire oui, le conflit, le gouvernement ne peut pas gérer, il y a ça, il y a beaucoup de... Quelle attente ça les populations peuvent faire pour la fin de ces conflits-là dans la zone du Sahel? Quelles sont les solutions que vous, en tant que spécialiste et docteur, vous pouvez nous dire, préconiser pour faire sortir ces pays de cette crise?
Merci beaucoup, madame. Alors, pardonnez-moi, je me permets simplement de rectifier une petite information. Donc, je ne travaille plus aujourd'hui pour l'Organisation internationale de la francophonie que j'ai eu l'honneur de servir pendant 5 ans en dirigeant son programme Maintien et Consolidation de la Paix. Je dirige aujourd'hui une organisation qui s'appelle l'African Security Sector Network et qui a pour objectif de favoriser une meilleure gouvernance, une gouvernance plus démocratique de la sécurité. Maintenant, je réponds plus directement à votre question. Merci beaucoup d'avoir dressé cette historique des racines du conflit malien, notamment en ce qui concerne la question du rôle qu'a joué la crise libyenne dans le déclenchement de cette crise au Mali. Je préciserai que cette crise libyenne est effectivement le retour des combattants Touareg qui avaient été mobilisés, recrutés par le colonel Kadhafi en son temps, a été extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on a assisté en 2012 à une alliance de groupes Touareg, notamment le MNLA, qui réclamait l'indépendance du nord, de la région du nord du pays, qui s'appelle l'Azawad. Donc, alliance de ces revendications indépendantistes ou autonomistes, en tout cas, avec des groupes dont les revendications étaient de nature djihadiste, notamment le groupe Ansardine ou le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ce sont ces groupes qui ont réussi à mettre en péril les institutions jusqu'à Bamako et qui ont failli déborder l'armée nationale qui avait été très affaiblie suite au coup d'État qui avait été par ailleurs perpétré par le capitaine Sanogo. Donc on a eu affaire à cette dynamique qui effectivement n'a pu être stoppée net par l'opération Serval qui a été déclenchée par la France.
Docteur, s'il vous plaît, restez avec nous, docteur. S'il vous plaît, on va juste prendre un petit break. S'il vous plaît, juste quelques secondes, on va prendre un petit break pour la deuxième partie de RM Show. Il est temps, nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de Voice of America. Restez là pour la deuxième partie de cette émission. God bless. Peace Africa.
Et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Mundo, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. À part le site, merci à tout. En tout cas, RM Show, la musique à cause de ça, à part la toute activité. À part.
Oyo, dis-moi la parade de RM Show, Bane.
Demi-salut, salut, demi-salut.
This is RM Show, let's go les amis, ici Roger Muntu, studio 2, micro 3, solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. C'est bien sûr la question de cette semaine. Pensez-vous que les Africains sont prêts à prendre en charge leur propre sécurité face au terrorisme, aux conflits ethniques ou tribales, qu'en sais-je, ou aux problèmes ou des maladies? On a parlé aussi d'Ebola et d'autres maladies aussi. On en parle cette semaine dans cette émission. Et comme invité aujourd'hui, nous avons le docteur Niagali Bagayoko. Nous sommes aussi en train de déguster de la bonne musique country pour nos amis qui nous écoutent, hein, surtout les amis de l'Afrique de l'Ouest, ils adorent la country. Tu sais, Jean-Louis, quand j'avais commencé à travailler à la Voix d'Amérique pour la première année, comme moi j'aime pas trop la country, je me suis dit, on va pas mettre la musique country dans cette émission. Et le lendemain, j'ai eu beaucoup d'appels venant d'où ? De Mali, venant d'Abidjan. On a dit, si vraiment tu enlèves cette musique country, j'ai dit, ok, y a pas de problème.
Mais moi aussi, j'aime pas trop la country.
T'aimes pas trop, hein? Georges, il aime tout. Yvonne,
j'adore beaucoup la musique country, oui.
Voilà. Kadi, tu adores la musique country?
Moi ça me fait penser à des mauvaises choses.
D'accord, on va en parler d'ailleurs dans un instant. Country music, c'est maintenant, on continue. Je salue en passant les étudiants à l'école protestante de Ouagadougou qui sont en train de nous capter maintenant. One Brothers Leather on. Et bien sûr, on salue aussi nos amis qui sont en train de nous capter en ce moment même. Ils sont nombreux à Goma, c'est à l'est de la RTC.
How about you and me get together, have a couple drinks? Well, don't you think that sounds like a good time? You start driving over, we can't get no closer.
later on, Swan's Brother. Voilà, vous êtes en train d'écouter Aram Shoum, l'émission de Voice of America, et nous parlons bien sûr des solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. D'abord, avant de continuer avec ce sujet, passons au sport. Et le sport, vous le savez très bien, c'est lui, le grand Georges Léonard Fagnon. Dans un instant, il sera prêt avec nous. Le sport, c'est tout de suite. Ben voilà, il est prêt, Georges Léonard Fagnon. Je laisse pour les intimes, pour l'actualité sportive. Hello, George.
Salut Roger et bonsoir à tous les amis des RM Show Sport.
NBA pour commencer. Hier soir, Sacramento est tombé face à Toronto, 105-120. Portland est également tombé face à Oklahoma City Thunder, 114-123. Les Clippers de Los Angeles ont été battus par Dallas, 98-106. Par contre, Minnesota a vaincu Phoenix, 118-91. À venir ce soir dans les parcs, Toronto affronte Indiana, Cleveland joue contre Boston. Les Celtics ont le vent en poupe. Ils devraient donc consolider leur position devant les Cavaliers en perte de vitesse depuis le départ de LeBron James pour les Lakers. Orlando s'oppose à Brooklyn. Un duel à l'avantage des Nets qui affiche 25 victoires dans ce championnat contre 20 pour Orlando Magic. Houston va à la rencontre de New York. Un match Roger qui devrait logiquement être profitable aux Rockets qui ont une longueur d'avance sur les Knicks qui n'ont enregistré que 10 victoires contre 26 pour les Texans. Miami se réchauffe contre les Clippers qui ne se sont pas encore remis de leur défaite face à Dallas. Philadelphie se mesure à San Antonio, deux équipes à observer de près dans cette compétition. Un mot de cyclisme pour boucler ce segment sport. La 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo se poursuit au Gabon. Au classement général mardi, Nicolo Bonifazio gardait le maillot jaune. Nous y reviendrons. C'est tout pour les sports. À demain.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce segment sport. À vous, Roger.
Merci infiniment, Georges Léonard Fagnon. Sans vous, en tout cas, il n'y aurait pas de sport dans cette émission. Georges Léonard Fagnon, reste avec nous. Georges, je sais que tu es toujours aussi intéressé par des sujets tels que les solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains.
Oui.
Et tu l'as aussi suivi. Tu sais que nous avons comme invité ce soir le docteur Niagale Bagayoko. Et je ne sais pas si... Tu avais une question ou un commentaire aussi à faire là-dessus?
Oui, merci Roger. Je voudrais d'abord féliciter et saluer notre invité qui est très bien dans ce qu'elle fait. Donc, Dr Niagale, qui a presque répondu à la question à travers le titre de son agence ou le nom de son agence. Elle dit qu'elle est aujourd'hui, elle gère une agence ou une institution appelée African Security Network. Et son but principal, c'est la meilleure bonne gouvernance. Gouvernance. Ouais. Et moi, je me dis, tout tourne autour de ça. Quand vous ne faites pas la bonne gouvernance, vous ne pouvez pas entendre avoir une meilleure sécurité. Le Mali s'est effondré parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance à ce niveau-là. Il ne faut, pas se voiler la face. C'est vrai que l'effondrement de l'empire Kadhafi en Libye a causé aussi beaucoup de tort. Mais est-ce que l'armée malienne était prête pour affronter cela? On a vu que le Mali n'était pas prêt à affronter ces terroristes djihadistes qui ont donc juré d'apporter, n'est-ce pas, les fusils et les Kalachnikov jusqu'à Bamako. N'eût été d'intervention de la France, encore la France. Quand ça ne va pas, on fait recours à la France. Et quand ça va, on jette la France par la fenêtre. Non. Moi, je me dis, le président François Hollande, n'eût été son intervention, le Mali aujourd'hui peut-être n'existerait pas. Et donc, docteur qui
peut-être
est...
que le Mali n'existerait pas. D'abord, avant de poser votre question, j'aimerais d'abord avoir la réaction du docteur Niagale à ce propos. Peut-être que le Mali n'existerait pas, docteur Niagale, si la France n'avait pas réagi.
Que l'intervention de la France a permis de stopper la progression de groupes qui menaçaient à la fois l'unité du Mali, mais aussi le caractère laïque de l'État, hein, la forme laïque de l'État et républicaine de l'État. Donc, ouais. Effectivement, cette intervention a été fondamentale. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur, qui me permet aussi de rebondir sur l'intervention de votre collègue. Effectivement, l'effondrement de l'armée malienne auquel on a assisté en 2012 face à la progression de ces groupes terroristes est le fruit de la façon dont cette armée a été délaissée ou politisée pendant les années qui ont suivi l'indépendance sous les différents régimes, qu'il s'agisse de celui de Modibo Keïta ou ensuite de celui de Moussa Traoré, même si il y a eu des tentatives de réforme, même timides, dans la période plus démocratique à partir des années 90. Ce qui est très important quand vous parlez de cette question de gouvernance, effectivement vous prêchez pour ma paroisse, c'est qu'aujourd'hui je pense que l'armée malienne et d'une manière générale les armées de la sous-région ont gagné en opérationnalité. Elles sont beaucoup plus opérationnelles qu'elles ne l'étaient en 2012, notamment parce qu'elles ont bénéficié d'entraînements massifs ou de l'appui. Que ce soit de pays occidentaux, effectivement, comme la France, mais surtout...
Oui, mais docteur, permettez-moi, docteur, de vous dire que ce n'est pas au moment de la chasse qu'on élève son chien. L'armée malienne et les armées de la sous-région auraient dû être prêtes depuis très longtemps.
Oui, mais elles ne l'ont pas été. Elles ne l'ont pas été. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc effectivement, ouais, il y a eu des missions de formation qui ont été mises en place. Mm. Et donc ce fameux G5 Sahel aujourd'hui, qui est face à deux défis. D'abord celui de son financement, puisque les pays de la sous-région qui l'ont mis sur pied, donc les cinq pays, donc sont le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, donc n'ont pas les moyens de soutenir financièrement cette nouvelle organisation qui est le G5 Sahel et sa force conjointe.
Que fait-on de nos ressources, docteur Niagali, à ce niveau-là?
Le respect des droits de l'homme. Ouais. Le deuxième enjeu, c'est celui du respect des droits de l'homme. Ouais. C'est différent des armées.
Docteur, je sais que vous venez souvent aussi à New York pour participer sûrement à des rencontres, des réunions, mais plusieurs fois dans ce groupe-là aussi, on parle, récemment en tout cas, on parle beaucoup plus de la paix et la sécurité en Afrique, on parle même de ce qu'ils disent, l'africanisation de la sécurité sur le continent. Et je sais que nous vous avons posé cette question au début. Vous pouvez nous dire ici qu'il y a eu et il continue à avoir de progrès?
Absolument. Alors, ces progrès se font, comme je le disais dans la première partie de l'émission, dans plusieurs cadres. À commencer par le cadre de l'Union africaine, qui a énormément progressé dans les instruments dont elle s'est dotée, par rapport à l'époque de l'organisation qui l'a précédée, l'OUA. Mm. Alors, il est vrai que, notamment la force africaine en attente, qui est censée avoir été mise sur pied dans le cadre de cette organisation de l'Union africaine, ne s'est pas révélée en mesure d'intervenir pour faire face au conflit. Mmh. Et les solutions comme la CARIC qu'on a essayé de lui substituer n'ont pas fonctionné non plus. D'où l'émergence de solutions ad hoc, comme la force conjointe du G5 Sahel ou comme la force multinationale mixte qui a été mise sur pied pour lutter contre le groupe Boko Haram. Donc là, vous voyez quand même que même si ce n'est pas l'Union africaine qui met en œuvre les solutions, les Africains prennent en partie en charge leur sécurité sur le terrain. Il est vrai, avec encore une présence internationale extrêmement importante, à la fois sur le terrain, à travers les missions de maintien de la paix, ou les missions de formation de l'Union européenne, comme je le disais, mais également à travers le financement de la sécurité, parce que c'est le vrai problème de cette solution africaine aux problèmes des Africains. C'est-à-dire que la sécurité, il faut être en mesure de la prendre en charge soi-même aussi financièrement.
Ouais, d'ailleurs, il y a eu un commentaire, je vais laisser Kadiatou parler dans un instant, mais il y a eu un commentaire sur Facebook de Marie Lola qui dit « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis sécuritaires en Afrique et nous risquons de tomber dans les mêmes travers que le passé si nous ne tenons pas compte des situations politiques et économiques, comme venait de le dire docteur, de ces pays. » Kadiatou Traoré.
Moi, c'est juste pour lui poser la question, quelle est sa réaction par rapport à la position de l'Algérie dans le conflit sahélo-sahélien? Pourquoi? Moi, j'ai jamais pu comprendre la position de l'Algérie face à la mise en place du groupe G5. C'est quand même un pays assez fort. L'Algérie est quand même un pays assez fort et qui est plongé au milieu de ce conflit sahélien. Mais ils sont restés muets. Et ils sont là, ils font rien. Et quelle est votre réaction par rapport à ça, docteur Bagayogo?
Alors l'Algérie est évidemment un acteur central hein, dans la gestion du conflit malien notamment, et je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Algérie est restée les bras croisés. Effectivement, elle n'est pas intervenue militairement, mais comme vous le savez, l'accord pour la paix qui a été signé en 2015 a été négocié à Alger, et en ce nom, quand on le simplifie, d'accord d'Alger. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il est vrai qu'elle n'est pas impliquée dans les différentes solutions mises en œuvre d'un point de vue militaire sur le terrain. D'autres initiatives avaient été prises par le pays, notamment la mise en place d'un état-major sous-régional avec les pays d'Afrique du Nord, le CEMOC, qui n'a pas donné de résultats. Mais même si elle n'est pas présente militairement dans la gestion de la crise, je pense que l'Algérie reste un acteur très important dans la résolution de ce conflit.
Roger, je voudrais juste réagir par rapport au souci de Kadiatou et l'intervention du docteur par rapport à l'Algérie. Oui. Il faut dire que l'Algérie, s'il y a un pays qui devait servir de modèle aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme, c'est bien l'Algérie. Parce que dans les années 90, l'Algérie était confrontée à ce problème-là. Il a fallu l'arrivée du président Abdelaziz Bouteflika pour mettre fin ou anéantir ou en tout cas ou étouffer le problème de terrorisme aujourd'hui en Algérie.
Merci beaucoup. Docteur, restez avec nous. Georges, restez avec nous. Kadiatou, nous revenons dans un instant. On va respirer en musique, parce que country music, ah oui, on adore country music aussi, au Burundi. Écoutons.
$2 on a scratch-off ticket, so I went back to the counter and I bought two more with it, and I won $10 and that was just right, so I bought a six-pack and a bag of ice. You know, even if our ship came in and this is all we got, it ain't like we really need $1 million yacht, cause we got an inner tube, we got a trailer. Can you imagine if we ever struck it? I go tequila, take a lime and suck it, and we tell our bosses they can do the same. We'll find a big cruise ship and buy the whole dang thing. We sail around the world and go to shore in a day, but till that dream comes true, why don't you grab your bikini? We got an inner tube, we got a trailer.
Country Music, vous êtes en train d'écouter Aram Chou, une émission de Voice of America en direct de Washington DC, la grande capitale de United States of America. Solutions africaines aux problèmes sécuritaires africains. Et bien sûr, nous allons continuer avec ce sujet jusqu'à lundi prochain, qu'en sais-je. Et il est presque temps pour nous de laisser le docteur aller se reposer quand même. On l'a trop gardé ce soir. Mais j'ai d'abord une question à poser. D'abord, docteur Bagayoko, vous suivez avec moi l'information, ce qui se passe en RDC. Et je disais tantôt que la prestation de serment du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, est confirmée pour jeudi. Je voulais juste savoir quel est votre point de vue là-dessus. Comment vous analysez le problème au Congo?
Mais ce produit de manière... sous une forme non attendue, je dirais, ce qui était redouté en partie, c'est-à-dire que les résultats de cette élection sont contestés. Donc, heureusement, pour l'instant, la situation semble rester très calme dans le pays. Mais est-ce que cela va durer, sachant par ailleurs que les partisans du président Kabila ont remporté les élections législatives et provinciales. Qu'est-ce qui va se mettre en place dans le pays, cette sorte de coalition un peu hybride? Effectivement, c'est un immense point d'interrogation pour la sécurité du continent.
Qu'est-ce que tu fous?
Moi, c'est quand on parle de sécurité, quand même, il y a une situation de sécurisation des frontières qui viennent à l'idée automatiquement. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de sécurisation des frontières entre les États pour maintenir la sécurité sur le continent? Pensez-vous que c'est une nécessité ou bien ça n'est pas une? Que pensez-vous de cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela?
Moi, je vois que vous connaissez très très bien les questions de sécurité vous-même, madame. Donc effectivement, cette question de sécurisation des frontières est absolument essentielle et a été très très largement négligée pendant des décennies, là encore. C'est-à-dire que la gestion de la sécurité a très souvent été centrée sur les capitales des pays, alors que des zones périphériques, notamment aux alentours des frontières, ont été laissées à l'abandon et on n'y trouvait même pas de postes de police ou de gendarmerie, notamment dans les pays francophones. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de sécuriser les frontières. D'ailleurs, le mandat en grande partie de la force conjointe du G5-Sahel, qui travaille dans un rayon de 50 km de part et d'autre des différentes frontières des pays membres. Mais effectivement, cette question de l'enjeu de la sécurisation est essentielle et n'implique pas que des militaires, mais implique d'autres forces, que ce soit des forces de police, que ce soit des douaniers, des gardes frontières, effectivement. Et ça, c'est très très important de mettre l'accent aussi sur ces autres acteurs.
Docteur Nirgali, je sais que demain, les enfants, calmez-vous. Tout le monde veut encore poser une question ici. On ne peut pas garder ce docteur toute la journée, toute la nuit, je ne sais pas. Docteur, on vous aura encore demain et tous ses collègues reviendront encore demain. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé, docteur. Hein. Merci.
Merci.
Je
ne
sais pas si on doit dire bonne nuit ou
bonne journée.
Ou bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée, docteur. Merci infiniment. Je rappelle que docteur Nirgali était notre invité, Nirgali Bagayoko, qui est docteur en sciences politiques, option relations internationales, spécialisée, comme je l'ai dit, dans les études stratégiques. Elle a travaillé sur les politiques de sécurité française et américaine, les conflits africains et sur le concept européen de gestion civile des crises. Country Music, ainsi chaque mercredi aussi dans cette émission Arab Show. Il est temps pour nous de passer à la comédie, les blagues du jour avec Lionel Gaïma et Jean-Louis Mafema qui m'a dit « Papa Roger, je suis déjà prêt ». Ouais, la blague du jour, et c'est tout de suite. Jokes of the day, c'est comme ça qu'on dit ça en anglais. La blague du jour, on commence avec Jean-Louis Mafema. Bonsoir Jean-Louis, d'abord bonsoir à Lionel, parce que Lionel n'était pas avec nous. Bonsoir à Lionel.
Bonsoir monsieur Roger Montou.
Super.
Bonsoir Lionel, ça va?
Bonsoir, ça va?
Ouais.
Bonsoir Kadiatou.
Non.
Ah, c'est fini, là c'est la réponse.
C'était la blague. Quand la blague du jour.
Comme elle avait dit. Je vais lui en donner une là, tout de suite.
Je sais, quand je suis là sur le match, c'est sur moi.
Comme elle aime. Donc, tu vois, elle était préparée.
Non, elle c'est la blague du jour, mais. Comme elle aime le dire, c'est la secret.
Jean-Louis Mathieu, c'est un gars de la
blague. Moi, je vais vous faire un rapid fire. Vas-y. Coup rapide, voilà. Pourquoi tous les anges sont sourds?
On ne sait pas les.
Non, mais pourquoi ils sont sourds?
Mais non, moi je ne sais pas s'ils sont sourds.
Bon, mais je vais vous dire pourquoi.
Non, est-ce qu'ils sont sourds?
Mais attends d'abord, je vais te dire pourquoi ils sont sourds.
Ouais.
Parce que Jésus crie.
Mais ce garçon.
Ça, c'est l'abomination même.
Lionel Gaïman. Vas-y.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Ok, sinon, moi, je prends la blague si tu n'es pas prêt.
Non.
Alors, vas-y alors.
Comme Kadi est là.
Ouais.
Hein? Je vais lui raconter une blague qui s'est passée à Bobo là.
Ouais, let's go. Vas-y, le temps.
Un malien dit à une serveuse.
Un rendez-vous dit à une serveuse.
Hey, laisse, les gars.
Je veux 16.
Et la serveuse dit.
Monsieur, vous laissez bien.
Et le malien répond, non, ça fera. 16 est pour m'asseoir.
Non, ça c'est pas malien.
C'est quoi? Non. À sa blague. 16. Non. La 16 là.
Non.
Je vais m'asseoir dessus.
Malien ne dit pas 16.
Alors ma blague vite fait. C'est l'histoire d'un gars qui fait porte à porte. Un jour, ce gars sonne à une porte, un homme qui ouvre.
Bonjour monsieur, on fait une quête pour la maison de retraite. Vous pourriez faire un don?
Oui, bien sûr. Mémé, prends ton manteau.
Vous là, vous êtes méchant. Hein?
C'est moi qui...
Non.
Comment, Jean-Louis, vas-y.
Comment est-ce que un jardinier, vous savez qu'un jardinier ment?
Non, un jardinier ne ment pas, ça c'est pas...
Non, un jardinier ment.
Non, moi...
Quand il ment, il vous raconte des salades.
Lionel, alors, vas-y.
Non, c'est un mec qui a publié sur sa page Facebook en disant que la nuit dernière, il avait tellement bu que même après 7 verres de whisky, il aurait pu conduire. Et qu'il a été responsable et tout ça.
Ouais.
Mais pour montrer qu'il était bien, il a pris un taxi pour rentrer chez lui. Alors, il a eu 80 likes, il a eu 20 commentaires, tout ça. Mais le meilleur commentaire venait de son ami qui lui a dit, mais mon pote, le taxi t'a déposé où? La fête, c'était chez toi, là. Est-ce que tu as bougé de quelque part?
Tu n'as même pas bougé de quelque part. Et tu vas dire, je ne sais pas si moi j'ai encore une autre petite blague. Est-ce que moi j'ai une blague même? Jean-Louis, si tu as une autre petite blague,
oui,
tu peux toujours...
Pourquoi est-ce que Napoléon...
Non, pardon.
Attends.
Vas-y, écoute. Il y a le petit, un élève qui arrive à l'école, il pose la question à son professeur. Il a dit, madame, est-ce que vous pouvez punir quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose? Madame a dit, mais toi aussi, petite Kadiatou, comment vas-tu punir, tu n'as rien fait?
Il dit, ben alors, j'ai pas fait mes devoirs.
Bon, d'accord, j'ai une.
Vas-y.
Pour la première fois.
Ah. Tu n'as que deux
secondes. C'est les dames, allez les vieux, ça s'arrose.
Ouais.
La cinquantaine.
Ouais.
Lionel, tu vas pas me dire non.
Ne me parle pas de
son
cas.
Il y a trois femmes qui se sont réunies.
Tu n'as que 10 secondes.
Et puis, elles ont dit, bon, la vie en rose, c'est à partir de la cinquantaine. Si rose... Ostéreose, arthrose, névrose, arthrose.
On applaudit
You are the best.
Please don't go and gotta go job wise. Peace Africa.